Le métier de critique littéraire, vous êtes à Maupetit pour le centenaire de Maupetit Deuxième Temps pour expliquer votre métier, pour le faire découvrir. Alors d'abord, comment devient-on critique littéraire, Nelly Capredian?
Je pense que d'abord, il faut aimer lire. Il faut aimer les auteurs, il faut aimer les romans, il faut aimer réfléchir à la littérature, et puis il faut aimer écrire aussi, parce que on est sur la presse écrite quand même, ça c'est important. Et ensuite, je pense qu'il faut être assez culotté et ne pas avoir peur de décrocher son téléphone. Enfin, en tout cas, ça se faisait comme ça il y a 20 ans. Maintenant, je sais pas, je pense que ça se passe par mail. Mais en tout cas, se proposer pour des stages, se proposer pour des articles, ne pas hésiter à écrire sur des formats courts, ne pas toujours tout de suite arriver et vouloir faire l'interview de Gustave Flaubert. Là, ça marchera pas. Mais faire des choses plus humbles. Et puis, petit à petit, avoir de la chance aussi et travailler dur.
Olivia de Lamberterie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous intervenez à la radio, à la télé.
J'interviens à la radio avec Nelly, au masque et la plume. Et effectivement, à la télévision le matin, c'est le même métier, puisque le métier, c'est lire et essayer de transmettre ce qu'on a trouvé beau. Mais après, il faut adopter des stratégies différentes à la radio, à la télévision et dans la presse écrite, effectivement. Même si c'est le même métier à la base.
Est-ce que ces débuts ont été durs et est-ce qu'on en vit bien de ce métier?
Alors moi, j'ai été journaliste longtemps avant d'être critique littéraire. Donc, je suis engagée dans une rédaction à Elle depuis 25 ans. Je crois que je suis la plus vieille. Je fais partie maintenant des meubles. C'est un métier qu'on peut faire de différentes façons. Parce que soit vous appartenez à une rédaction, comme c'est le cas à Nelly Ozenrock et moi à Elle. Soit, effectivement, c'est un métier... sûrement beaucoup plus compliqué quand vous travaillez à la pige et qu'il faut effectivement avoir du culot pour frapper à la porte des journaux. Je pense que c'est un métier qui est en pleine transformation avec évidemment les réseaux sociaux et que sans doute si j'étais une jeune fille aujourd'hui de 20 ans, je ne l'exercerais pas de la même façon. Je pense que c'est un métier que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, chacun peut inventer, réinventer. Et c'est pour ça que les gens de 20 ans qui me disent « Oh, j'adore, mais les journaux sont morts, c'est fini, la presse, c'est la sidérurgie », c'est un peu vrai, mais je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer.
Nelly Capredian, est-ce que vous êtes d'accord? Et surtout, quel genre de littérature critiquez-vous? Est-ce que c'est uniquement de la fiction? Est-ce que ce sont des récits? Ou bien même des ouvrages savants? Quels sont les livres?
Alors d'abord, oui, je suis complètement d'accord avec Olivia. Il vaut mieux être engagé qu'être en freelance. Et aujourd'hui, je pense que ça change complètement. Le métier est en train de changer. Je pense qu'il faut aussi se tourner vers des podcasts et d'autres choses, des vidéos. Mais que la presse écrite telle qu'on la connaît n'est pas appelée à durer encore 50 ans, donc voire 30, voire 10 peut-être. Donc il faut un peu devenir polyvalent et traiter un peu tout. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de traiter plutôt des romans, de ce qui est littéraire, c'est-à-dire des récits, des romans, des mémoires, pas vraiment des essais. Je pense que des essais, si on est sérieux, ça demande un autre bagage, à part, bon, évidemment, un essai littéraire, là, je peux le traiter. Mais ensuite, en plus, aujourd'hui, vous savez, il y a eu plein de débats autour de qu'est-ce qui est roman, qu'est-ce qui est récit, qu'est-ce qui est autobiographie, qu'est-ce qui est mémoire, qu'est-ce qui est autofiction, qu'est-ce qui est... Voilà. Donc, du moment que c'est littéraire, on peut le traiter, je le traite.
Olivia de Lamberterie, maintenant les rapports avec les éditeurs. J'imagine qu'ils vous envoient des tonnes de livres, c'est ça? Et quels sont les rapports? Est-ce que quand même il y a des camaraderies et est-ce que ce sont pas toujours des rapports de force?
Oui, je reçois entre 30 et 50 livres par jour. En ce moment, avec la rentrée, on tourne autour de 50. Des rapports de force, ça peut arriver, mais... En fait, moi, je trouve qu'avec les éditeurs, on a tout à fait intérêt, et eux et nous, à travailler assez main dans la main et de la manière la plus honnête possible. Parce que les éditeurs savent très bien qu'ils ne publient pas que des chefs-d'œuvre, pour des raisons d'ailleurs souvent qui les honorent, parce qu'ils pratiquent une politique d'auteur et vous pouvez très bien publier un livre d'un auteur moins bon que d'habitude. Moi, je dis toujours que si un éditeur me dit « Lis ce livre, il est génial », je le lis. Si le livre n'est pas génial, la deuxième fois où il me dira « Lis ce livre, il est génial », je le lirai avec un petit peu moins d'enthousiasme. Et la troisième fois, je ne le lirai pas. Donc, moi, je trouve que c'est un métier quand même où on travaille assez bien, avec des gens de bonne compagnie, et la sincérité et l'honnêteté vraiment vaut pour tout le monde. Après, on a tous raconté effectivement des coups de force, des ruptures, des insultes, mais je trouve que ce n'est pas du tout le pain quotidien de notre métier.
Nelly Caprelian, vous êtes d'accord ?
Oui, moi je suis complètement d'accord avec Olivia. Je pense qu'en plus, à un moment donné, il y a un rapport de confiance. Mais je sais qu'on me demande beaucoup, t'as pas trop de pression des éditeurs ? Et en fait, si on veut ne pas en avoir, on n'en a pas. Très franchement, on leur fait comprendre très vite que ça ne marchera pas. Et très vite, d'ailleurs, ils sont plutôt sympathiques, les éditeurs. Ils sont pas. Et c'est vrai, comme disait Olivia, il faut quand même rappeler qu'en France, il y a une forme d'exception aussi française de l'édition. Contrairement au monde de l'édition anglo-saxon, en France, ils n'attendent pas que chaque livre apporte de l'argent. C'est-à-dire, ils se permettent de publier des choses pas forcément littéraires, très populaires, pas forcément excellentes, mais où ils savent que ça va se vendre, ou ils espèrent que ça va se vendre, ou des documents, par exemple, pour pouvoir publier des jeunes auteurs, des auteurs plus confidentiels, mais qui sont vraiment très littéraires et qui sont importants, qui doivent exister. Moi, je respecte les éditeurs français pour ça, Olivia aussi. Et je pense qu'ensuite, on a des rapports personnels avec eux, avec les attachés de presse aussi, beaucoup, je crois, par certains éditeurs, mais sinon, on voit beaucoup plus les attachés de presse. Au bout d'un moment, au bout d'année, on se connaît. Elles savent qui on est, elles savent quelle ligne éditoriale on défend. Je dis elles parce que c'est souvent des femmes. Là, c'est, Dieu merci, en train de changer. Mais je pense qu'il y a un rapport de complicité qui se met en place, mais de complicité dans le sens où on leur demande de nous parler vraiment, de mettre en avant les titres qui peuvent nous intéresser et pas tout leur catalogue, parce qu'alors là, on n'en finit plus, on n'est pas là pour ça. Et puis, je pense qu'il y a une forme de respect mutuel et aussi de respect où elles savent que, bon, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je ne veux pas que, quand elles me demandent qui fait quoi, quand je dis j'ai distribué tel livre, il est en lecture, et très souvent, j'avais un mail me demandant qui dans ton équipe a le livre. Et je savais que les attachés de presse, c'est leur métier, allaient contacter ensuite le pigiste plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, je les protège, par exemple, mes journalistes. Je ne veux pas que ça se sache. C'est pas parce que je fais des secrets, c'est parce que je veux que dans mon équipe, les journalistes puissent lire tranquillement, sans avoir quelqu'un sur le dos. Et ça, au bout d'un moment, elles savent, ils savent, les éditeurs aussi, que je ne travaille pas comme ça. Ensuite, je ne peux pas parler des autres journalistes, je ne sais pas comment ils travaillent. Mais voilà, ça se sait. C'est un rapport à deux.
Nelly Caprelian, nous sommes dans une librairie qui fête son centenaire. À Paris, la librairie indépendante a des difficultés, comme partout en France, ici aussi à Marseille. Est-ce que vous trouvez important que les librairies indépendantes existent, prospèrent ?
Mais évidemment, c'est primordial que la librairie indépendante prospère. Les librairies indépendantes, d'abord, elles sont indépendantes. Ensuite, elles peuvent inviter des auteurs. C'est aussi un lieu animé de débat. Là, on en est la preuve. Ensuite, je trouve très important d'entrer dans une librairie pour acheter un livre, quel qu'il soit. Je n'ai aucun mépris pour les gens qui rentrent pour acheter des livres que moi, je ne lirai pas, par exemple, d'une littérature très, très grand public, best-seller, Guillaume Musso, Marc Lévy ou n'importe quoi, parce que je pense qu'on peut repartir avec un autre livre. C'est-à-dire que la librairie, on y entre pour un livre ou pour rien, ou juste pour se réfugier parce qu'il pleut, et on peut acheter un petit livre de poche merveilleux et qui va nous amener à lire et à lire davantage. Je pense que moi, par exemple, je ne commande jamais rien sur Amazon parce que je ne veux pas, d'abord on ne peut pas vraiment flâner, je ne veux pas que mon goût soit calculé par des algorithmes qui ensuite me proposent des choses de façon totalement irréfléchie, mercantile. Je pense que la librairie, il faut vraiment l'encourager, il faut l'aider. Moi, je mets un point d'honneur. On reçoit, Olivia et moi, plein de livres. Évidemment, on pourrait passer notre vie à ne plus rentrer dans des librairies. Mais on met un point d'honneur à continuer à rentrer dans des librairies, à acheter des livres.
Olivia de Lamberterie, dernière question. Vous avez évoqué le futur de votre métier, mais au-delà, le futur de la lecture publique, justement, des librairies, du livre.
Moi, je suis assez optimiste. D'abord pour une raison... moi, je traite aussi beaucoup de la littérature jeunesse, parce que je trouve que c'est un secteur en France où il y a des génies dont personne ne parle, et d'ailleurs des génies qui vendent énormément de livres. Et les petits Français sont des très gros lecteurs, donc on peut espérer que ça se transforme. Après, vous parliez de la librairie indépendante. Ce qui est fascinant, c'est de voir le nombre d'événements organisé chaque jour en France, de débats, de rencontres, de lectures, de musique. Sans libraire, il n'y a pas de livre. Hein, donc, et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a quand même un changement de prescription. Les journaux ont moins de pouvoir et que je pense que les libraires ont vraiment une très grande responsabilité. Et puis après, comme disait Nelly, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Paul Hirsch, qui est le directeur des éditions POL. Et nous étions ensemble au Salon du Livre. Il y avait Charles Juliet, il y avait des auteurs extraordinaires de POL. Et puis il y avait évidemment des lecteurs autour d'eux. Mais juste à côté de nous, il y avait un stand de littérature de ce qu'on appelle Young Adult, avec des filles gothiques, et il y avait 3000 personnes qui attendaient pour faire la queue. Et Jean-Paul Hirsch a eu ce mot. Il m'a dit, ben voilà, elles repartent avec un livre qu'on connaît même pas, gothique, mais il n'est pas exclu qu'un jour elles ne rencontrent Flaubert. Et je m'étais dit, ben voilà, il a raison. On lit, et puis un jour on lit Flaubert. Donc, on a toutes les raisons d'être optimiste.